RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle semaine de Grande Gueule, bien sûr en direct à partir de 9h jusqu'à midi, 3 heures de discussion, de débat autour de l'actualité avec vous au 32-16 sur RMC la radio, RMC Story, la télé. Alain Marchal prend quelques jours de vacances pour se reposer, il sera en pleine forme la semaine prochaine. Et dans les GG, la forme, elle est là. Elle est représentée notamment par Bruno Poncet, le cheminot. Salut Bruno.
Bonjour à toutes et à tous.
Non jamais. Ah ben, un cheminot ne prend jamais de vacances.
Ah ben, les trains roulent toute l'année.
Il fait que grève. C'est oui, ça, c'est les vacances à lui. C'est la grève.
Bah, pas trop, non.
Nous sommes avec Barbara Lefebvre, la prof d'histoire géo. Vous l'avez entendu. Oui. Bonjour Barbara.
Oui, jamais en grève non plus. Par contre,
Barbara,
t'es
en vacances 6 mois dans l'année. Donc,
voilà.
Oui, ça, c'est vrai que les profs.
Pour ça, j'ai tendu un peu la perche.
C'est vrai que les profs ont pas mal de vacances. Bon. Mais d'ailleurs, il y a des vacances en ce moment scolaire. Il y a deux zones en vacances. Et puis, l'avocat Charles Consigny est avec nous. Bonjour Charles.
Bonjour à tous.
Tiens, attends, j'ai deux photos à vous montrer. Alors, c'est pas très radiophonique, donc on va les décrire. Mais si vous êtes devant RMC Story, deux photos parues dans Paris Match qui mettent en scène Charles Consigny. Alors, tout d'abord, vous voyez Charles.
Monsieur, monsieur Consigny.
Alors, je m'y attends.
Monseigneur.
C'est Monseigneur Consigny dans sa cuisine salle à manger, dans sa maison du Jura. Pour ce reportage dans Paris Match. Et il y a une deuxième photo, c'est Charles Consigny sur un muret avec une tronçonneuse à la main. C'est l'Argentin du Jura, là.
Avant qu'il se coupe le pouce
du Jura.
Avant qu'il se coupe un doigt.
Raconte-nous un peu, Charles, les coulisses de ce reportage.
Les journalistes sont exceptionnels parce qu'il n'y a pas un propos qui m'est attribué dans cet article que je me souviens avoir prononcé.
Ah mince.
Donc c'est pas grave, c'est sympathique quand même.
Et les photos, tu les as bien.
Et je trouve que les photos sont excellentes. C'est un très bon photographe dont le nom m'échappe à l'instant, mais que vous retrouverez dans Paris Match. Et effectivement, c'est notre maison de famille.
La cheminée magnifique,
de fort longue date. Alors, ils écrivent que c'est un manoir. C'est pas tellement un manoir. C'est une ancienne place forte. C'est une maison, en fait, militaire, ancienne, qui a été transformée au fil du temps en maison d'habitation. Mais c'est plus une espèce de grosse caserne, si vous voulez, jurassienne, qu'un manoir.
La cheminée, elle fait quoi?
Elle fait
2 mètres de large.
Mais c'est vrai que au fil du temps, c'est devenu une maison d'agrément,
qui est notre
maison de famille où j'ai accueilli Paris Match avec plaisir.
Oui, mais alors le patchwork là entre les carreaux du sol et
ce que j'aime bien, c'est que même le week-end à la campagne, il reste en costume.
Oui,
Charles.
C'est toujours, ça. Toujours classe.
Non, mais je suis pas toujours en costume, classe. Je suis en gentleman farmer.
Voilà,
ah, j'allais pas accueillir Paris Match en jogging
et
claquettes chaussettes. Je n'en sais rien.
Bon, en tout cas, c'est à découvrir sur le site de Paris Match, ce reportage, ces photos et ce papier. Mes chers grandes gueules, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, à savoir la mort de Quentin, qui a été à la une de l'actualité ce week-end. Cet étudiant de 23 ans, militant identitaire, nationaliste, qui a été littéralement lynché par plusieurs individus, comme en témoignent les vidéos diffusées.
C'est effectivement un lynchage. Quand vous portez des coups à un homme à terre à plusieurs, vous ne pouvez pas ignorer que vous pouvez donner la mort. Les policiers travaillent ardemment sous l'autorité du parquet. Je veux saluer d'ailleurs leur travail. Et ils sont en cours d'identification des personnes. Évidemment, ils les identifieront. J'ai aucun doute là-dessus. Et on verra si on confirme ou on infirme la thèse selon laquelle c'est l'ultra-gauche. Mais manifestement, c'est l'ultra-gauche qui était à la manœuvre.
Laurent Nunez, hier soir sur France 2, Quentin était venu participer au service d'ordre du collectif Némésis qui manifestait contre la venue de Rima Hassan à une conférence tenue à Sciences Po Lyon. Et en marge de cette conférence, il y a eu des affrontements entre ces jeunes et ce lynchage dont Quentin a été victime. Sur le banc des accusés, l'ultra-gauche, comme le dit Laurent Nunez, les militants de la Jeune Garde plus précisément, mouvement Antifa qui assure la sécurité de Rima Hassan, mouvement créé par le député insoumis Raphaël Arnaud, qui doit être dissous ce mouvement. C'était la volonté de Gérald Darmanin lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, mais on attend une décision du Conseil d'État. il y a une personne qui est nommée, c'est Jacques-Élie Favreau, qui est le collaborateur parlementaire du député Raphaël Arnaud, qui était présent sur les lieux. Alors lui, il s'en défend, il dit qu'il n'a rien fait, mais il s'est mis en retrait de ses activités parlementaires. Le procureur de Lyon va tenir un point presse tout à l'heure à 15h et donc il pourrait faire des annonces, peut-être les premières interpellations avant ou après. Les services de police, en tout cas, auraient recueilli plusieurs témoignages significatifs. Alors, est-ce que c'est l'ultra-gauche qui a tué Quentin ? C'est la question qu'on vous pose ce matin au 32-16. Charles Consigny.
Oui, je pense que à cette question, la seule réponse possible, c'est oui. À mon sens, c'est l'ultra-gauche qui a tué Quentin. Et d'ailleurs, cette dénomination d'antifasciste, à mon sens, n'est que trop complaisante avec ces groupuscules, même si elle nous permet de citer Churchill qui disait que le fascisme reviendrait dans les habits de l'antifascisme.
Non, c'est pas Zolini qui a dit ça.
En se proclamant antifasciste. Bon, Churchill a dit la même chose. Ouais.
Les deux sont morts, donc tant pis.
En tout cas, Pier Paolo Pasolini, ce qui est intéressant, c'est qu'il était communiste.
Voilà, le réalisateur
italien. Il savait de quoi il parlait.
Alors, voilà. Continue.
Mais Barbara a raison de...
Churchill a lutté contre les nazis.
A raison de le dire, d'autant qu'il y a eu en Italie du terrorisme d'extrême gauche extrêmement violent. Donc moi je trouve ça, je suis comme tout le monde consterné et bouleversé pour les proches de Quentin. Je suis assez sidéré aussi d'entendre ici et là une certaine gauche qui se met à faire le procès de Quentin et le procès de ce collectif Némésis. C'est-à-dire qu'on entend des gens qui disent oui mais quand même Némésis, t'as vu, c'est atroce, etc. C'est-à-dire que la gauche est tellement sûre de son fait que elle tolère des manifestations extrêmement violentes de son idéologie et de la commission de crimes au nom de son idéologie. Et en revanche, même quand c'est l'extrême gauche qui tue, elle ne supporte tellement pas la contradiction qu'elle va quand même incriminer la droite ou l'extrême droite, en l'occurrence le collectif Némésis. C'est dire le niveau de tolérance d'une certaine gauche qui est à peu près égal à zéro. Et donc, l'enquête va dire exactement qui est responsable de ça, mais je pense qu'on peut dire que l'ultra-gauche a tué Quentin.
Alors, la question c'est quand même comment en arrive-t-on là ? Des bagarres, bon, il y en a toujours eu, notamment à Lyon, où la mouvance identitaire et la mouvance ultra-gauche, les deux sont assez présentes, et il y a régulièrement malheureusement des règlements de compte. Mais là, c'est plus qu'un règlement de compte, c'est un lynchage. Quand on voit les images, elles sont particulièrement terribles, où on le frappe à terre, et surtout on le frappe au visage, à la tête. Quand on frappe quelqu'un à la tête, c'est qu'il y a une volonté de tuer.
Les vidéos montrent déjà que la dépêche AFP et l'utilisation du terme RICS, qui a été utilisé tout de suite par un certain nombre de médias, est fausse.
Quentin, ça a été rectifié ensuite.
La dépêche AFP, elle est jamais rectifiée. D'accord,
oui,
la dépêche AFP.
Ce qui compte, c'est ce que disait The Tourist, et Laurent Nunez parle de lynchage.
France Télévisions, par exemple, hier, France Télévisions, fallait pas écouter parce que c'était de la désinformation complète. Bref. Mais, on est étonné. Moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé le 24 avril 2021. 17h, une manif identitaire, place du Forez à Lyon. Et quelques temps, une fois que la manifestation est terminée, rue des Capucins, un petit peu plus loin. Un jeune homme se promène, il a 18 ans, il a participé apparemment à la manifestation, et encore qu'on n'en est pas sûr. Et là, une troupe de miliciens, je le dis, fascistes de la jeune garde, lui tombe dessus, ils sont 6, ils le frappent au sol après avoir voulu vérifier s'il avait un tatouage nazi, etc. Qui a tabassé ce jeune ? Raphaël Arnaud. Et pour cela, il a été condamné définitivement à 4 mois de prison avec sursis. En février 2022, il avait prétendu faire appel. Il a tellement fait traîner l'appel, avec des recours multiples et variés, pour finalement décider de ne plus faire appel. Il a donc définitivement été condamné. Donc nous avons aujourd'hui un député définitivement condamné par la République pour violence volontaire en réunion. Alors il a eu de la chance quand même, il a eu une dispense d'inscription au B2. C'est-à-dire que la justice a été
Raphaël Arnaud n'était pas présent à Lyon.
Non, mais j'explique qui est la jeune garde et que leurs méthodes sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que Raphaël Arnaud lui-même tabassé en marge de manifestations dans les rues de Lyon, c'est exactement la façon de faire de la jeune garde. Et le chef de la jeune garde lui-même l'a pratiqué, s'est fait condamner pour cela. et a reconnu les faits en plus.
Donc il dit que c'est un mouvement violent.
Il les avait niés avant, il avait dit non, j'étais pas là. Quand il y a eu les vidéos qui sont sorties, il a été obligé d'avouer. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr que c'est la jeune garde et probablement peut-être qu'il y a des membres proches de Raphaël Arnaud. Donc je me demande comment la République peut continuer à ne pas lever des immunités parlementaires pour des gens comme Rima Hassan, qui depuis 2 ans et demi ont des tonnes d'articles 40 sur le dos. Le Parlement européen refuse de lever son immunité parlementaire. Monsieur Arnaud, qui est condamné définitivement par la justice, excusez-moi, il y avait un député La République En Marche, il avait été condamné pour violence. En plus, c'était des violences, je crois, qu'il avait commises avant d'être élu député.
Il a donné des coups de casque.
Voilà, non, il a été sorti par la reine. Il a été poussé à la démission. Oui. La LFI soutient la jeune garde.
La jeune garde est soutenue par Jean-Luc Mélenchon.
Célèbre la jeune garde. Donc oui, bien sûr qu'ils sont responsables. Et il va falloir sérieusement maintenant penser non seulement à la jeune garde, mais à voir si la France insoumise mérite encore d'être un parti qui a le droit de présenter des candidats.
On va en parler dans un instant, puisque Maude Bréjon, la
porte-parole... Là, ça commence à bien faire. Hein.
Maude Bréjon a mis en cause ce matin la porte-parole du gouvernement, carrément la France insoumise, en disant que ce mouvement avait une responsabilité morale. Mais pour rester sur ce qui s'est passé ce week-end, Bruno Poncet, cette ultra-gauche violente qui s'en est pris à ce jeune militant.
Déjà, moi, je suis désolé qu'un jeune meure sous les coups en France pour ses idées politiques. Qu'on les combatte, qu'on les combatte avec des mots, qu'on les combatte dans les urnes pour certains ou dans des meetings, mais qu'on se combatte pas au point de se tuer. Ça me rappelle ce qui s'était passé avec Clément Méric et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait un peu de calme.
Clément Méric, il faut rappeler, c'était un militant antifa qui avait été tabassé.
Qui était mort
par
à côté de Stadium Haussmann.
Voilà.
Mais lui, il se battait à ce moment-là.
Il se battait pas.
Il se promenait pas dans la rue.
Il s'est pris un coup.
Voilà, il s'est pris un coup, un mauvais coup. Hein. En fait, moi, je pense que Nunes et d'autres devraient plutôt attendre la fin de l'enquête, qu'on nous explique qui a fait quoi, qu'il y a un procès, que ces gens qui ont tué soient jugés. Et d'éviter de mettre de l'huile sur le feu. Moi je rappelle juste que mes collègues de Solidaire 69 se sont fait casser leur local hier parce que Némésis entre autres a dit que c'était eux qui avaient fait ça, sauf que sans preuve, sans rien, c'est tellement facile de lâcher la lali. Et donc moi je pense qu'il serait quand même bien d'attendre un petit peu que l'enquête se fasse, et derrière il y aura un procès. Et comme les assassins de Clément Méric ont été condamnés à de la prison ferme, et ben j'espère bien que les assassins de ce jeune homme soient condamnés à de la prison ferme, et c'est tout. Mais aujourd'hui je pense que c'est pas le moment. Et Nunes a fait une erreur en disant on sait pas si c'est l'ultra-gauche, mais c'est forcément eux. Bah non, t'attends que l'enquête soit finie.
Et puis après, il y a des informations.
Dans ce cas-là, faut qu'ils les disent. Aujourd'hui, à un moment donné, tu peux pas te permettre de faire ça parce que on est dans une période quand même où tout est prêt à brûler dans certains endroits. Et Lyon, principalement, je rappelle quand même que Lyon, c'est quand même le territoire de tout ce qui est négationniste et compagnie. Donc en fait, là-bas, c'est incandescent à chaque coin de rue. Association LGBT, moindre association de gauche,
c'est systématiquement ça, c'est l'inversion de la responsabilité.
Ce que je veux dire surtout, c'est que là aujourd'hui, attendons la fin de l'enquête et que ce contre le gamin, c'est ce qui va.
Je voudrais qu'on donne la parole à Romain au 32-16. Bonjour Romain, il nous appelle de Paris. Bonjour.
Oui, bonjour à tous et bonjour à Monsieur le Châtelain à Consigny.
Bonjour à tous, bonjour cher Romain.
Vous avez compris, c'est pas un château, c'est un ancien fort militaire.
C'est une caserne.
Alors, revenons sur les faits là, Quentin. Que pensez-vous de ce qui s'est passé ce week-end? Quelles sont les responsabilités?
Moi en fait, je vais pas attendre hein, parce que ça fait des années qu'on le voit. En fait, il est vrai que si on fait preuve d'objectivité et d'honnêteté intellectuelle, il y a dans ce pays aujourd'hui un parti politique, effectivement, qui fait monter le racisme, qui fait monter l'antisémitisme, qui a été capable de produire des affiches nazies l'année dernière, qui se comporte très mal à l'Assemblée nationale, qui déteste la police et qui fout le bordel dans notre pays. Et ce parti, c'est pas le RN. C'est pour moi le nouveau parti fasciste de France, c'est l'extrême gauche. Et le problème avec l'extrême gauche, c'est que la gauche collabore avec cette extrême gauche. Moi, il y a quelques temps, j'entends qu'entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, un ancien président de la République, voterait Mélenchon, ça me donne envie de vomir. Quand tout le monde a appelé à voter pour LFI l'année dernière, il y a 2 ans, en lieu et place du RN, ça me donne envie de vomir. Donc maintenant, on le sait, on le voit ce qui se passe depuis des années. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un parti fasciste en France, et je suis désolé, mais c'est pas le RN, c'est l'extrême gauche. et la gauche collabore, et je dis bien collabore, avec ce
parti. Pas toute la gauche. Ce matin, Raphaël Glucksmann, qui sera peut-être candidat à l'élection présidentielle, l'eurodéputé Place Publique, disait « Il est désormais impensable que la gauche cultive le moindre doute sur une alliance avec LFI.
Ben » Moi, j'attends
ils
justement...
toujours à voter LFI.
Mais il a raison, Romain. Faut qu'un journaliste pose la question à M. Glucksmann. D'accord, M. Glucksmann, mais si le deuxième tour, c'est Mélenchon, Le Pen, vous votez quoi? Et là, il faut qu'il dise qu'il s'abstient. Mais tu verras qu'il dira pas qu'il s'abstient. Il tournera autour du pot, mais il ira pas jusqu'au bout pour dire qu'il s'abstient. Et je voudrais rappeler, parce que Romain a raison, à Avignon, au deuxième tour des législatives, c'était le RN qui était en tête et Raphaël Arnaud avait 10 points de retard. Raphaël Arnaud a gagné au deuxième tour. Comment il a gagné au deuxième tour?
Il a bénéficié du Front Républicain.
Il a bénéficié du Front Républicain, notamment de la maire PS d'Avignon, qui pourtant était contre sa candidature, mais qui a appelé à voter Raphaël Arnaud. Et la.
Gabriel Attal avait appelé à voter LFI plutôt que RN.
Que tous ces gens ne s'étonnent pas, d'accord? Qu'aujourd'hui, on est un parti qui, moi, je le dis, est en train de préparer la guerre civile. Parce que c'est ça que veut Mélenchon.
Après, LFI a dénoncé ce qui s'est passé, a regretté la mort de Quentin.
J'ai entendu son discours à Mélenchon.
Oui, j'ai entendu.
Après, il a d'abord fait « Nous avons de l'empathie ». Et ensuite, il s'est lancé dans un truc.
Bah, il a défendu Rimas.
D'une violence sans nom contre Némésis. Il en a profité pour mettre un coup au collectif Nous Vivrons aussi. On ne sait pas pourquoi le collectif Nous Vivrons, les féministes qui...
De droite.
Après le 7 octobre. Non, pas du tout. Elle s'est tenue par des gens qui soutiennent Glucksmann. Alors, je vais te dire
Bref.
Donc, Glucksmann, c'est la droite pour la France Insoumise.
La violence de Mélenchon, elle est importante aujourd'hui parce que ce qu'il attend, c'est qu'en 2027,
quand on tient des discours violents,
il puisse lâcher ses troupes. Mais bien sûr, il est en train de préparer le ferment de quelque chose qui serait des affrontements.
Je ne suis pas sûr qu'à 4 semaines du premier tour, la mort de Quentin soit une bonne chose.
Je te parle pour 2027.
Insoumise, oui, mais là, dans quatre semaines, les Français vont voter. Je suis pas sûr que cette affaire soit quand même une bonne chose, parce que la violence, les Français la rejettent.
C'est surtout pas une bonne chose pour Quentin, déjà.
Un gamin qui meurt dans la rue, c'est pas jamais une bonne chose. Hein.
Bien entendu. Alors, on va remercier Romain dans un instant.
On parlera de Rima Hassan, qu'est-ce qu'elle fichait à Sciences Po Lyon, sous les hurrahs des étudiants. Bah, bravo.
Alors, d'ailleurs, la direction de Sciences Po Lyon se défend, dit qu'elle avait mis un service de sécurité. Enfin, on va parler de tout ça encore.
Service de sécurité.
Kevin, le 32-7, dans un instant. Merci Barbara, tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
1, 2, 3, 4. La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story avec Barbara Lefebvre, Charles Consigny, Bruno Poncet, la mort du jeune Quentin, 23 ans, à Lyon, lynché par plusieurs individus, sans doute des membres de l'ultra-gauche, en tout cas ce qu'a laissé entendre Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Le procureur va faire une conférence de presse tout à l'heure à 15h, on en saura plus. Sur le banc des accusés, il y a la Jeune Garde, ce mouvement qui sert de service de sécurité à Rima Hassan, qui était sur place pour une conférence à Sciences Po Lyon, et la France Insoumise, pointée du doigt également par Maud Bréjon. Ce matin, la porte-parole du gouvernement était notre invitée.
C'est la France Insoumise qui, en 2024, lors des législatives de 2024, a investi et fait élire un membre de la Jeune Garde.
Raphaël Arnaud.
Fiché S. C'est la France Insoumise qui, la semaine dernière, le 11 février, dans un communiqué, demandait au gouvernement de revenir sur la dissolution de la Jeune Garde. Il y a donc... vis-à-vis du climat politique, du climat de violence, une responsabilité morale de la France Insoumise.
Responsabilité morale évidente. De la France Insoumise dans la mort de Quentin.
Une responsabilité morale de la France Insoumise dans ce climat de violence exacerbé.
Kevin est avec nous, 32-16. Bonjour Kevin.
Oui, bonjour Olivier, bonjour à toute l'équipe.
Vous vouliez pointer du doigt la responsabilité du collectif Némésis, qui est ce collectif qui avait donc appelé à manifester contre la venue de Rima Hassan et dont Quentin assurait le service d'ordre avec ses camarades.
Alors, j'ai indiqué que dans un premier temps, en fait, c'est la responsabilité morale de Némésis qu'il faudrait pointer au lieu de automatiquement détourner la direction contre LFI, car c'est trop facile. Et dans un deuxième temps, lorsque la justice aura fait l'enquête et découvert qui sont les réels criminels, parce que pour moi, ce sont des criminels hein, qui ont tué ce jeune homme, et ben qu'ils prennent une vraie peine, même si c'est 30 ans, mais qu'ils la fassent vraiment. Mais que je trouve que c'était lâche quand même de tout de suite pointer du doigt LFI. Je précise, je ne vote pas du tout LFI, mais c'est plutôt Némésis qui a organisé une contre-conférence. et que si...
Non, pas du tout. Ils ont juste manifesté. Ils ont manifesté.
On va laisser terminer Kevin, Barbara.
Oui, donc je disais que si, selon moi, si cette manifestation n'avait pas été effectuée,
ça n'aurait pas créé la violence.
Pas décédé. Voilà, c'est ce que je pense.
Donc déjà,
et,
c'était.
Je pense également que le décès de.
C'est vrai que Némésis.
Excellent. J'étais au moins 5-6 sur lui quand même. Et
non mais excusez-moi, Kevin. Oui. Ils ont le collectif Némésis, c'était quelques femmes qui ont déployé un drap sur lequel il y avait écrit quelque chose contre la présence de Rima Hassan à une conférence. Oui. Je crois qu'on a encore le droit parce que je pense que eux ne se gênent pas à la moindre conférence de n'importe qui, y compris même ils entrent dans les amphithéâtres pour empêcher les gens de parler, les gens de LFI et proches de Rima Hassan. Donc là, Némésis a juste sorti sa banderole et il y a tous les gens de la Jeune Garde qui se sont mis contre elle. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a une jeune femme du collectif Némésis qui est à l'hôpital car elle a été jetée violemment au sol et elle a des douleurs au cervical et des nausées. Donc il est probable qu'elle ait elle a je ne sais plus combien de jours d'ITT, elle a probablement un traumatisme crânien. Ça les gêne pas, les soi-disant féministes, de jeter des femmes au sol. Et non, mais ça c'est très important.
Oui,
et par ailleurs,
Némésis, ce genre de française comme service d'ordre, c'est vrai qu'on est vraiment dans le genre
de pensée. En fait, c'est comme de dire la fille qui s'est fait violer, fallait pas qu'elle mette une mini jupe. Ben, je suis désolée, c'est pas comme ça.
Kevin n'a pas dit ça.
Le collectif Némésis a le droit de manifester. Je suis désolée.
Non, il n'a pas dit ça. Kevin n'a pas dit ça.
Non, c'est la logique. C'est la logique.
Selon moi, s'il n'y avait pas eu la contre-manifestation de Némésis, je crois qu'on a dit que ça aurait dégénéré.
Oui, mais alors dans ce cas-là,
Kevin n'a plus le droit de manifester alors.
Oui, mais alors dans ce cas-là, Kevin. On peut aller plus loin, Kevin.
S'il y avait eu l'histoire des femmes qui sont allées manifester au spectacle de Harry Habitant, s'il y avait eu un décès, j'aurais dit exactement la même chose, que c'est la faute de ces femmes qui sont allées manifester. Là, il y a eu une contre pour une conférence qui a été autorisée. Il y a eu un décès.
Kevin, je suis d'accord avec vous, mais dans ce cas-là,
c'est plus rien.
Tout de suite du doigt et les filles. Même ils ne partagent pas du tout leur.
Parce que la Jeune Garde, c'est Raphaël Arnaud, et Raphaël Arnaud, c'est un député LFI, donc il y a quand même. Et la Jeune Garde est peut-être impliquée dans.
Vous accusez les victimes d'avoir été victimes, c'est quand même sidérant quand même.
C'est pas ce qu'il dit.
Alors, non, mais pardon. Quand Maud Bréjon, Charles, dit LFI a une responsabilité morale dans ce climat de violence, est-ce qu'elle a raison de pointer du doigt la France Insoumise? Sachant qu'effectivement, la Jeune Garde, c'est un mouvement qui appartient à un député de la France Insoumise. Donc ça, c'est et qui assure le service d'ordre d'une députée européenne de la France Insoumise, Rima Hassan.
Disons en tout cas que la France Insoumise a toujours conservé toute sa solidarité vis-à-vis de Rima Hassan, qui quand même fait peu de mystère de son antisémitisme et qui est dans une dynamique extrêmement violente. D'ailleurs, le succès de Rima Hassan dans les universités françaises a quelque chose d'inquiétant, je trouve,
Elle cartonne à chaque fois.
Sur nos étudiants qui sont complètement
endoctrinés
au gauchisme et à la violence.
Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la venue de Rima Hassan, ça provoque parfois des débordements. Est-ce que Sciences Po Lyon a raison de la faire venir? Et est-ce que Sciences Po Lyon n'a pas une responsabilité parce que, visiblement, le service de sécurité n'était pas à la hauteur, étant donné ce qui s'est passé?
En tout cas, je sais qu'à Sciences Po Paris, elle a été refusée d'entrer deux fois, justement, en raison de crainte de débordement.
Trouble à l'ordre public.
Moi, je suis un partisan de la liberté d'expression totale, donc je...
Il n'est pas pour l'interdiction.
Non, je suis jamais pour les interdictions. Mais en même temps, si vous voulez, pour moi, Rima Hassan, c'est un peu comme c'est le même combat que Dieudonné ou Soral, si vous voulez. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de différences idéologiques.
Eux, ils ont été condamnés après à.
Honnêtement, pour moi, il n'y a pas beaucoup de différences idéologiques.
Elle est députée européenne, qui protège aussi des poursuites.
C'est à promouvoir des propos à un moment donné.
Mais néanmoins, j'aurais pas été pour une interdiction parce que j'estime qu'il n'y a pas non plus que le centre qui a le droit de s'exprimer politiquement dans ce pays.
Pas d'interdiction, mais peut-être faut mieux sécuriser parce que là, pardon, quand tu fais venir Rima Hassan, tu sais très bien qu'il y aura des contre-manifestants, qu'il y aura d'ailleurs elle-même se protège en faisant venir un mouvement antifa, est-ce qu'il ne faut pas, dans ce cas-là, donner des garanties de sécurité? Moi, je trouve qu'il y a quand même une interrogation sur la direction de Sciences Po Lyon, alors qui dit qu'elle avait embauché, je crois, deux agents de sécurité et que la police lui avait dit « appelez-nous dès qu'il se passe quelque chose ». Ce qu'elle a fait, d'ailleurs, la direction. Mais c'était trop tard.
Il n'y a pas que ça, Olivier. Moi, déjà, je veux revenir sur ce que dit Bréjon. Enfin, Bréjon, il ne faut pas oublier qu'elle et tous ceux, la plupart des députés Renaissance ont été élus grâce au report de voix des LFI dans certains endroits. Je rappelle quand
c'est
même que moi, je m'étais chiffonné avec des copains des LFI parce qu'ils ont fait réélire Borne.
Donc les macronistes
donc, à un moment donné,
sont hypocrites.
C'est biscuit de l'hypocrisie, là, c'est des tartuffes en fait. On est en plein dans de la tartufferie. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, c'est bien. C'est facile parce que là, t'es à quelques semaines des élections municipales. Donc déjà, faut que tu te refasses une virginité parce que ça fait quand même 9 ans que t'es au pouvoir et ça fait 9 ans que les gens veulent ta peau. Donc tout le monde veut que tu t'embarres. Et puis dans un an, il y a les présidentielles. Donc là, tout le monde va jouer sa carte perso.
Et quand il s'agit de sauver son poste de député, voix venues des LFI, c'est pas un problème.
Bien sûr. Non. Puis tu verras que ça reviendra tout ça parce qu'à un moment donné, ils reviendront les chercher.
Moi, je voudrais revenir quand même sur cette histoire de on n'a pas le droit de manifester, etc., etc. Parce que quand c'est de l'autre côté, il y a pas de problème. Il y a quelques mois, mon collègue historien, montrer à quel point ces gens-là ont un gros problème. Mon collègue historien Yanis Roder, qui travaille au mémorial de l'histoire de la Shoah et qui travaille comme professeur d'histoire, vient faire une conférence invitée par Sciences Po Lyon sur la question de juger les crimes à Vichy, puisque vous savez que Lyon était quand même une ville très importante pendant la guerre, notamment avec la présence de Klaus Barbie. C'est une ville de la
Jean Moulin
du martyr de la résistance. Yanis venait faire une conférence à Sciences Po Lyon devant des magistrats et des étudiants. Il y a eu une bronca d'étudiants d'extrême gauche, dont des gens de la Jeune Garde, etc., qui avaient mis des tags sur les murs en prétendant Yanis Roder génocidaire et compagnie, etc. Il a été exfiltré pour sortir. Voilà ce que c'est l'extrême gauche, c'est-à-dire une conférence sur les crimes de Vichy. À partir du moment où on a lu vaguement, où on t'a googlé sur et que ils ont décidé que tu étais dans le camp des génocidaires ou des je sais pas quoi, t'as plus le droit de parler parce que sinon on te menace au point qu'il faut t'exfiltrer. Et Rima Hassan, il n'y a jamais besoin de l'exfiltrer. Rima Hassan, elle est toujours entourée de ses militants et de ses miliciens qui font que elle, comme par hasard, elle a pas de problème. Elle a aucun problème pour circuler.
C'est normal qu'elle ait pas de problème.
Elle est entourée de miliciens, sûr.
Pardon, mais Barbara.
Alors, sauf que c'est des miliciens.
Personne ne devrait avoir de problème. Tout le monde pourrait s'exprimer librement sans que ça se termine par la mort d'un jeune homme.
Tu peux pas t'exprimer librement quand tu as sur le dos des Rima Hassan et des jeunes gardes, excuse-moi.
L'extrême droite, c'est quand même leur berceau. Moi, je sais pas, le moindre truc à Lyon, le nombre de fois qu'il y a des ratonnades à Lyon.
D'accord.
Et puis en plus, moi, je veux te dire, quand j'entends qu'on me dit, là, le mec, c'est à un moment donné.
Dans les années 80.
Et dernièrement, c'est encore ça. Et
puis, a toujours été le pied des identités.
Il y a encore eu un centre LGBT qui a été attaqué par l'extrême droite à Lyon. Enfin, à un moment donné, c'est ça tout le temps. Enfin,
Guillaume est avec nous. Guillaume nous appelle de Saint-Jean-de-Luz. Bonjour, Guillaume.
Bonjour à tous.
Alors, que pensez-vous de ce qui s'est passé ce week-end?
Je voudrais revenir sur ce qui a été dit un peu avant. On n'a plus le droit de manifester. En fait, c'est la faute des manifestants. S'il y a un décès, c'est quand même extraordinaire. Il y a un moment où il faut être juste. Comme disait Charles, la liberté d'expression, elle doit marcher dans tous les sens.
Exactement.
Ce qui s'est passé à Lyon, c'est honteux. Je n'ai jamais voté à l'extrême droite. Je ne pourrais pas. On ne peut pas me qualifier de nazi. Mes grands-parents ont été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ma grand-mère a été décorée de la Légion d'honneur. Je suis originaire du côté de ma mère de Lyon. Mais là, il y a un moment où le nazisme, en fait, il est plus à droite. Le fascisme complet, il n'est plus du tout à droite. C'est la gauche qui dirige, c'est la gauche qui décide.
Ah, c'est pas toute la gauche, là.
Il ne faut pas faire des amalgames non plus.
Là, c'est ce qu'on appelle l'extrême gauche ou l'ultra gauche.
Non, mais c'est comme si on disait que tous les musulmans, c'était des terroristes, et on est dans le même business. En fait, on est tous dans le même sac. En fait, à un moment donné, l'extrême gauche, déjà, l'extrême gauche, faudrait déjà un peu la cibler. Là, on est plutôt sur des groupuscules violents, et ça n'a rien à voir avec l'extrême gauche qu'on entend de.
Mais ils sont utilisés par des sorties.
Mais comme le RN utilisait des.
Donc tu les
dénonces, c'est comme ça.
C'était une erreur.
Mais bien sûr, mais
le RN n'a pas utilisé des nazis, tu racontes n'importe quoi.
Excuse-moi, mais tu racontes n'importe quoi. En marche d'un 8 mai, d'une fête de Jeanne d'Arc, on achetait quand même des Arabes dans la Seine, mais c'est vrai que c'était.
Le Front National, qu'est-ce que tu racontes? Tu nous parles d'un truc qui a des Arabes. Là, on te parle aujourd'hui, 2026.
Déjà, calme-toi un peu. Non, détends-toi. Déjà, c'est bien. Déjà, moi, je ne suis pas ton gamin, je suis pas tes élèves. Redescends un peu sur tes grands chevaux, mais là, détends-toi.
Toi, ton art, c'est l'art de l'extrême gauche, c'est-à-dire de noyer le poisson en nous parlant.
C'est l'extrême droite, donc ça tombe bien en fait. T'es bien ciblé là-dedans.
De toute façon, tu peux éructer ça
maintenant. C'est ça,
Guillaume. Stop. On va laisser Guillaume terminer.
Je vais juste terminer parce que.
Non, c'est Guillaume qui va terminer.
Ce que fait Bruno, c'est de parler de faits vagues de l'époque du FN pour venir essayer.
Le FN a aussi utilisé des mouvements.
Le FN, oui. Le FN, oui.
Des mouvements parfois violents. Un peu comme fait Mélenchon pour sa sécurité.
Front National.
Mais
pas
c'est
le
des méthodes
national.
Qui, malheureusement, on voit ça aboutir.
Vous pouvez toujours le répéter 10 10 fois, je vous dirais le Front National. Oui,
c'est parce que tu vas répéter 10 fois que tu vas dire une vérité.
Non.
Hein.
Ah, bah si.
C'est quand même
bah,
non, je crois
stop.
Pas, non.
Barbara, stop. T'es pas là pour, faire, pour prendre la défense du RN.
Voilà,
stop.
C'est vrai,
Guillaume, Guillaume, mot de la fin, Guillaume.
Toute la gauche n'est pas responsable, heureusement. Ce sera toujours une minorité. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, ce sont les minorités qui dirigent. Et on peut pas faire, on peut pas travailler comme ça. La démocratie, c'est la majorité des gens. Donc, dans la gauche, ils ont qu'à, enfin, toute la gauche a qu'à faire son ménage et virer une grosse partie qui ne va pas. Et aujourd'hui, la seule personne qui dirige tout ça et qui a un peu de gouaille à gauche, malheureusement, c'est Mélenchon.
Merci Guillaume d'avoir appelé au 32-16. Alors, on a posé la question sur le compte X des GG. L'ultra-gauche a-t-elle tué Quentin? Vous dites oui à 87,3%. Dans un instant, Anaïs Innocence pour le OSEF. On s'en fout pas, et puis on prendra les nouvelles de Charles Consigny. On l'a pas entendu depuis un moment, Charles. Il va bien?
Non, mais j'ai préféré laisser l'extrême droite et l'extrême gauche s'affronter.
À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, Bruno Poncet, le cheminot, Barbara Lefebvre, la prof d'histoire géo et l'avocat Charles Consigny. C'est parti cette semaine, les GG partent en vadrouille pour les municipales. Nous repartons vous voir et on sera à Marseille jeudi au Palais de la Bourse. C'est 9 rue de la Canebière, c'est le siège de la Chambre de commerce et de l'industrie. En public, donc il faut s'inscrire parce que les places, bien sûr, sont limitées. Et pour cela, vous envoyez un mail à public@rmc.fr, public@rmc.fr pour Marseille jeudi. On compte sur vous. Anaïs Innocence est installée. C'est parti.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Innocence.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Laurent Nunez en déplacement en Algérie aujourd'hui et demain. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles?
On ne s'en fout pas.
Barbara?
On s'en fout pas.
Et Bruno?
Non, on s'en fout pas du tout.
Écoutez, le ministre de l'Intérieur, il était invité du 20h de France 2 hier soir.
J'ai l'espoir de renouer évidemment le dialogue sécuritaire avec mon homologue, le ministre de l'Intérieur. C'est un voyage très important de réengagement de la relation avec l'Algérie.
La question des OQTF donc, la lutte contre le terrorisme, le cas de Christophe Glaize, le ministre de l'Intérieur doit évoquer ces épineux sujets dans un contexte de tensions diplomatiques persistantes entre les deux pays. Charles Consigny.
Comme on a eu l'occasion de le dire ici, moi j'espère que M. Nunez va rentrer d'Algérie avec Christophe Glaize dans son avion. Si ça n'est pas le cas et si ce ne sont que des palabres sans lendemain et de la faiblesse du côté de la France, ce déplacement ne sert à rien. Je pense que soit il doit rentrer avec Glaize, soit il aurait dû poser, et tout le gouvernement, poser comme préalable à toute visite officielle d'un membre du gouvernement français en Algérie, la libération de Christophe Glaize.
C'est l'anti-méthode Retailleau un peu,
Bruno
Barbara.
Poncet, ou Barbara.
Non, vas-y, Bruno.
Bah, moi, je suis comme ça. Je voudrais bien que Christophe revienne dans les bagages de Nunez. Et puis
tout le monde, je pense.
Pardon ?
Tout le monde.
Bah, ouais, enfin, tout le monde, on sait pas trop, mais.
Si.
Bah, la famille.
Bah, je sais pas, parce que Christophe Glaize, en ce moment, à part quelques-uns, j'entends pas beaucoup de gens.
On en parle assez peu, quand même.
Moi, je vois personne, tu vois, je vois personne sur les terrains de foot rentrer avec un maillot, Free Christophe, tu vois, par exemple. Et moi, je voudrais bien le voir, ça, parce que quand même, il est journaliste sportif, très fin connaisseur du football France et mondial. Et je vois pas des grands joueurs de foot se mettre avec un maillot et dire sortez Glaize de
prison.
Ah ouais,
t'es étonné?
Bah ouais, je suis toujours étonné, je suis quelqu'un d'assez naïf. Oui. Donc mais je pense que c'est le rôle de Nunez d'aller là-bas parce que en fait l'Algérie peut pas être un état ennemi, c'est pas possible. On a trop de concitoyens qui sont d'origine de là-bas pour pas être
donc
un état ennemi.
Donc renouer des relations apaisées. C'est la méthode douce.
Bah il faut.
Micro sinon.
Oui.
Moi ce qui m'inquiète c'est si c'est madame Royal qui lui a préparé le terrain, ça m'inquiète. Parce que si il vient juste après Ségolène pour lui aussi repasser une couche de pommade, moi ça m'inquiète beaucoup.
Non mais Ségolène, personne n'a compris ce qu'elle avait fait. Hein.
Oui, mais elle l'a rencontré.
Elle a vu Christophe Glaize.
Ouais. Elle a vu Christophe Glaize, donc justement, moi c'est ça qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'elle soit revenue.
Après une belle couche de pommade.
Voilà, qu'elle soit revenue en lui disant alors, parce que c'est sûr qu'elle est revenue, et encore heureux d'ailleurs qu'il l'ait débriefée, j'espère bien.
Oui,
pour lui demander alors. Et elle, comme excusez-moi, mais des fois on se demande un peu sur quelle planète elle vit. Si jamais il est parti avec les infos de Ségolène, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec Monsieur Tebboune et compagnie. Donc non, moi je suis, comme vous le savez, pour la fermeté. Et il fallait d'abord des sanctions, et notamment au niveau des visas et du regroupement familial. Et seulement après, on discutait avec ces gens.
Les GG, mauvaise nouvelle pour toi, Barbara. Tiens, Emmanuel Macron regagne le cœur des Français. On s'en fout ou pas?
On s'en fout pas du tout, surtout que
Bruno,
c'est une fake.
On s'en fout pas du tout.
Charles,
on s'en fout pas.
Selon le baromètre Ipsos pour la Tribune dimanche, la popularité d'Emmanuel Macron est en hausse de 2 points en un mois pour atteindre les 20% d'opinion favorable. Le chef de l'État est porté par un contexte international. Les lunettes de soleil, peut-être, hein, sont fort chours. Alors que dans le même temps, le cornu, lui, écoutez, il est en baisse. Hein, au plus bas, même avec 3 points en moins.
Mais des lunettes
À 26%.
Avec le soupule.
C'est son record d'impopularité depuis son installation à Matignon.
Alors, en même temps,
c'est pas très long.
Emmanuel Macron. Je t'ai appelé Emmanuel Charles.
Olivier me confond avec Emmanuel Macron.
Avec le président.
C'est parce que t'as pas encore mis
ta tête. Je te souhaite le même dessin, président.
C'est peut-être prémonitoire. Peut-être que c'est moi qui raccompagnerai Emmanuel Macron à sa voiture en 2027, quand il y aura enfin une alternance dans ce pays. Écoutez, moi je pense que le jeune Macron a été quand même assez efficace à Davos, a fait un bon discours. Ses lunettes, c'était drôle et décalé. Il faut pas en faire trop non plus sur des lunettes, parce que si on en est là, c'est que le fond, c'est quand même beaucoup trop éloigné de nos préoccupations.
Son nom à Donald Trump, peut-être, qui a marqué les esprits.
Je pense que les choses s'apaisent un petit peu. Néanmoins, ça ne fait pas oublier un bilan qui est quand même pas terrible, un pays qui est au bord de la faillite et une situation politique particulièrement explosive. Donc voilà, je pense que les Français lui accordent un petit sursis, mais en même temps, c'est une manière d'être poli avec celui qui quitte l'entreprise.
Bruno.
Bon, après, quand on dit
plus deux, il y a deux sondages qui confirment une petite embellie.
Ouais, enfin 20%. 20%.
Bah oui, il était bas.
C'est comme quand toi, Olivier, ou moi, quand on avait 4 en maths et qu'avant on avait 2. Ah bah tiens, maintenant t'as 4, t'as doublé ton score.
Ouais. Tu veux que je te rappelle.
Augmentation de 50%, bravo.
Je vais te rappeler ce que ma prof d'anglais avait écrit sur mon appréciation en terminale. J'étais passé de 6 à 8. Elle m'a dit en progrès, mais reste nul.
Mais je pense que Macron est quand même plus populaire que les syndicats de cheminots.
Ça m'étonnerait. Ça dépend où et ça dépend à quel moment.
Faudrait faire des sondages.
Je suis pas sûr, moi. Tu vois, et on devrait essayer. Par contre, ils sont certainement plus populaires. Macron est certainement plus populaire qu'un gars avec une tronçonneuse dans le Jura. C'est tout ce que je dirais.
Ah, ça, j'en suis pas certain.
Est-ce que c'est temporaire?
Tronçonneuse, ça veut dire que Jura, c'est un pléonasme.
Non, mais sérieusement, quand Emmanuel Macron est tourné sur l'international, qu'il affirme des positions fermes, après on est d'accord ou pas,
face à Trump et autres. Il blablate sur.
Est-ce qu'on n'est pas fier d'avoir un président qui se bat pour
nous? Non, parce que zéro effet sur l'Ukraine. Ça fait 4 ans que ça dure. Pourtant, il blablate. Par contre, il nous ruine. 92 milliards, là, on va donner.
C'est un prêt.
Oui, blabla. C'est pas du prêt, c'est les Français qui vont payer. L'Iran, rien du tout. Gaza, un coup c'est oui, un coup c'est non. Ça a été n'importe quoi. Excusez-moi, le bilan à l'international de Macron, je crois qu'on a rarement fait plus nul. Maintenant, moi, ce qui me fascine, c'est la presse. Je croyais que ça y est, ils étaient désintoxiqués de Macron. Ils bougent de 0,5% dans les sondages. Ils osent écrire une embellie. Macron regagne le cœur des Français.
Non, mais alors
la Pravda, vraiment, ça blesse.
C'est moi qui le dis, ça. C'est moi qui le dis pour te chambrer, Barbara. Pour titiller.
Bon, moi, je suis au premier degré, tu me connais.
Les JO d'hiver de Milan Cortina est le record de médailles françaises déjà égalé alors qu'il reste encore une semaine de compétition. On s'en fout pas, Charles.
On s'en fout.
Barbara. Alors là, je m'en fous.
Bruno.
Non, moi je m'en fous pas.
Je regarde les JO, Bruno.
Ouais, je regarde
de toute façon.
Ça cartonne.
En plus c'est des belles images. C'est des belles images. Il fait beau. On a quand même pas mal d'épreuves.
Combien de médailles?
15 médailles avec une chance de médaille. Là encore tout à l'heure, on le suivra sur RMC Radio officiel. Là, on égale le record établi en 2014 à Sochi et réédité en 2018. Alors qu'encore une fois, il reste une semaine de compétition, donc on va exploser tous les comptes.
Non, mais ce qui est dingue quand même, c'est que les JO, à chaque fois, tu regardes des sports improbables. Moi, j'ai regardé du curling. Déjà, j'y comprends que dalle. Enfin bon, c'est pour moi, c'est de la pétanque avec un machin plat. Enfin bon. Et donc, je regarde le curling. Hier, j'ai regardé le ski de bosse que je trouve génial. Ça, par contre, c'est dingue.
Le ski de bosse, c'est pas mal.
Ça, je comprends bien, par contre. Mais alors, par contre, je regarde des sports, des fois, c'est
biathlon.
Biathlon, alors, moi, je commence, tu vois, faut quand même le faire. Moi qui déteste les armes, je commence à regarder des meufs qui tirent avec un fusil. Je trouve ça génial, en plus. Parce qu'en fait, quand tu regardes, non, mais surtout, c'est que c'est des machines de guerre, tu les vois, elles accélèrent, enfin, c'est dingue. Mais c'est vrai que les JO d'hiver, tu regardes des sports improbables, des trucs que jamais de ta vie t'aurais regardé, même si c'était devant toi.
T'as pas zappé ce week-end, Charles?
J'en ai vu un tout petit bout, un tout petit bout, sans, de manière involontaire, avec un skieur brésilien qui allait plus vite qu'un skieur suisse. Vous avez peut-être vu ce truc.
C'est rare.
Non, si vous voulez, moi je.
Non, mais
je.
Dans le Jura, tu dois faire du ski de fond.
Je pense que c'est l'opium du peuple, si vous voulez. Je pense qu'on. On divertit les gens avec ça pour les éloigner des vrais, de leurs vraies préoccupations.
On peut regarder les JO et être concerné par les préoccupations du pays.
Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Ah bon? Aucun. C'est-à-dire que les gens... Bon,
okay. Tu skis pas, toi?
Si, je skie, mais le spectacle du ski, si vous voulez, franchement, je trouve que ça n'a aucun intérêt.
Ce qu'il aime, lui, c'est le ski, c'est le vin chaud, c'est...
La raclette.
La raclette, c'est ça. Et puis après, les soirées en boîte de nuit au Macumba.
Encore une fois, je pense que c'est plus amusant de regarder un lave-linge en train de...
Et toi, Barbara, même à tu regardes d'ailleurs. Un peu les JO?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, j'ai d'autres choses à faire. Oh en plus, là, j'ai fini de lire le livre de notre invité tout à l'heure. C'était plus passionnant que les.
Oui,
les
bah tiens, ça tombe bien. Mais si, bah ça permet quand même d'annoncer notre invité parce que je l'ai pas fait. C'est Fergan Azihari qui va venir. C'est un intellectuel, un essayiste qui fait un livre choc, l'islam contre la modernité, où il est parfois très dur contre cette religion qui est finalement un problème pour les musulmans eux-mêmes. Il invite d'ailleurs à la décision. Désislamisation, c'est pas facile à dire. L'apostasie. Donc il viendra nous expliquer ses arguments tout à l'heure face au GG Fergan Azihari à 11h. Oui, Anaïs?
Non, je disais que là, il y avait une nouvelle chance de médaille en slalom homme, hein, où un Français est en lice.
C'est Clément Noël.
C'est Clément Noël, champion olympique en titre. C'est à suivre dans le journal de Rémi Barret. Et puis, dans un petit quart d'heure, avec nous dans les Grandes Gueules.
En direct, bien sûr, parce que RMC, c'est la radio qui vous fait vivre chaque jour ces JO d'hiver, Milan, Cortina, RMC, radio officielle. Allez, à tout de suite pour parler notamment de ces inondations. Vous savez qu'il y a 75% de la France concerné par les crues, c'est du jamais vu. A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.